On peut commencer à l'heure. Bien, bonsoir. Donc, ce soir, troisième épisode dans ma promenade instrumentée dans l'américanisme russe. Aujourd'hui, autour des constructivistes. J'ai parlé la semaine dernière de l'autre groupe fondateur, fondamental de l'avant-garde architecturale, ce que l'on appelle les rationalistes de l'Asnova, autour de Ladovsky, autour qui sont la force dominante au Froutemas, dans cette école d'architecture de Moscou, où vous vous en souvenez, des expérimentations se déroulent en matière de psychologie expérimentale. Je parlerai aussi du groupe le plus radical de l'avant-garde, celui qui s'intitule Constructiviste, regroupé autour de l'OSA, ou Union des architectes contemporains. Je précise à nouveau que ce terme est l'équivalent de terme de moderne, mais que les connotations du terme « moderne » en russe étaient inacceptables pour ces architectes radicaux, car elles renvoyaient en fait à l'art nouveau. Donc, il s'appelait « contemporain » et il faut en fait lire « moderne », mais j'ai parfois laissé ce terme. Ce groupe de l'OSA est le groupe le plus radical, celui qui a été souvent vu comme le plus avancé politiquement. Anatole Kopp, mon vieux maître et ami, s'est intéressé moins à son discours formel qu'à la manière dont il avait été le relais du projet d'une reconstruction du mode de vie, du projet de la révolution culturelle dans la deuxième moitié des années 20. On pourrait en faire une toute autre lecture, une lecture plus formaliste, une lecture plus théorique. Et aujourd'hui, je voudrais essentiellement interroger les constructivistes quant à leur rapport au pluriel avec l'Amérique. Un peu d'histoire tout d'abord. Les constructivistes, autour de 1915, au moment de la grande exposition 0-10, l'avant-garde russe se clive en deux groupes assez fortement distincts. Autour de Malevitch à gauche et plutôt basé à Petrograd puis Leningrad, ce sont les suprématistes, dont je dirais que l'icône, et c'est effectivement comme une icône qu'il faut voir ce tableau présenté en 1915 dans le coin qui est d'habitude le coin rouge des icônes dans la galerie de l'exposition 0-10, leur icône, c'est le carré noir sur fond blanc de Malevitch. Les constructivistes vont se grouper autour de Tatlin, et sculpteur et non peintre, et qui s'intéresse à la matérialité de l'art et à la mise en cause, et tout en étant aussi une exhibition des matériaux de la modernité, que sont le verre, le fer, comme il le fait dans ce contre-relief qui ne pourrait être plus opposé, évidemment, au carré noir de Malevitch à gauche. C'est en 21 que le constructivisme, en quelque sorte, se constitue, s'établit, bien qu'en 1920 déjà, les deux frères sculpteurs Naum Gabaud et Antoine Pevsner aient utilisé le terme dans un manifeste constructiviste ou manifeste réaliste, mais en fait, les épisodes fondateurs sont au nombre de trois et ils interviennent pratiquement à quelques semaines d'intervalle. Le premier, c'est la seconde exposition de Lob Mohu, ou Société des jeunes artistes à Moscou, qui, vous le voyez, présente à la fois des sculptures et des sculptures dont les éléments sont souvent des éléments métalliques empruntés à l'univers de la machine. On a seulement deux photographies assez pixelisées, dirait-on aujourd'hui, assez tramées de cette exposition. On a retrouvé certaines œuvres. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y est passé exactement. Le deuxième événement est mieux documenté et il est très intéressant, puisqu'il s'agit d'une discussion qui intervient à l'intérieur de l'Institut pour la culture artistique, ou l'INHUK, qui voit une série d'architectes, de sculpteurs et de peintres réfléchir sur le thème composition contre construction. Est-ce que l'art révolutionnaire va rester dans le champ de la composition, ou est-ce qu'il va s'intéresser à la construction? Ici, par exemple, Ladovsky, architecte rationaliste, oppose un prisme traité sur le mode de la composition et un prisme traité sur le mode de la construction. Vous voyez qu'il est plus travaillé, qu'il a des formes plus sculpturales. Ici, Medunetsky, qui est un sculpteur, n'a aucune difficulté à opposer cette figure pseudo-cubiste à l'image d'une construction en bois et tige de métal. Donc, c'est le deuxième débat. C'est le débat central, celui qui se tient au sein de l'INHUK, qui est une dépendance du commissariat du peuple à l'éducation. Enfin, Le troisième épisode se déroule dans une autre exposition et sur les pages d'une publication, 5 x 5 égale 25, qui regroupe 5 artistes architectes, donc Varvara Stepanova à gauche, qui dessine une des couvertures du catalogue. Il y aura au total 25 catalogues faits main. Alexandre Viestin à droite, architecte, dont je vais reparler. Alexander Rodchenko, dont j'ai déjà parlé, artiste et photographe. Lyubov Popova, peintre. Et Alexandra Exter, peintre aussi. Donc un groupe intéressant et qui se... tous trois travaillent à définir ce que doit être une démarche constructiviste dans l'art, dans la peinture, dans la sculpture et dans l'architecture. Le terme est théorisé pour la première fois de manière tant soit peu cohérente et un peu, comment dirais, fantaisiste aussi, par un artiste graphique du nom d'Alexei Gann. Gann, qui est notamment le graphiste d'une revue intitulée Kinofot, qui est une revue très importante de l'avant-garde cinématographique et photographique. Gann est ici représenté par Varvara Stepanova sous les traits du constructeur. Et je voudrais, peut-être au risque de vous ennuyer un peu, revenir sur, ou plutôt évoquer ce qu'est le sens de ce terme de constructeur en Russie, qui ne renvoie pas simplement à la sphère du bâtiment, à la construction des édifices ou des ouvrages d'art. Ce terme de constructeur a un champ sémantique beaucoup plus vaste et en fait il renvoie à toute la sphère de l'ingénierie. On parle d'un constructeur d'automobile ou d'un constructeur d'avion, c'est-à-dire d'un ingénieur concepteur, le célèbre Tupolev, ingénieur et constructeur d'avions, sera en russe Guavni Constructeur, constructeur en chef. Donc, présenter Gann, qui est un artiste graphique, comme constructeur, veut dire toute l'ambition qu'on met dans ce terme. Dans son livre « Le constructivisme », petite brochure publiée en 1922, Gann exprime plusieurs positions. Sa première position, la plus importante, c'est sa manière de définir la problématique constructiviste, et il la définit autour de trois termes, qui sont le terme de facture, c'est-à-dire une œuvre qui a une facture qui l'apparente à celle de la machine ou des constructions. Il a une tectonique, c'est-à-dire Gann utilise la tectonique non pas au sens de Gottfried Semper ou des théoriciens de l'architecture allemande du XIXe siècle. Pour lui, la tectonique est un terme qu'il emprunte au champ de la géologie. Et il parle très clairement de tectonique des plaques, une doctrine, celle de Wegener, qui a beaucoup de succès dans le monde entier à ce moment-là. La tectonique, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité des œuvres d'art à exprimer le mouvement révolutionnaire, qui est un mouvement volcanique à l'image de la lave qui met en mouvement les plaques de la tectonique. Enfin, le troisième terme, c'est le terme de construction. Les œuvres doivent être, mais ceci nous renvoie au débat de Linhook, les œuvres doivent être construites, assemblées, en quelque sorte, et non composées. Gann s'exprime très modérément sur la question de l'Amérique et de l'américanisme, qui obsède beaucoup de ses camarades. Il le fait simplement pour exprimer son mépris quant aux maisons de rapport d'avant la Révolution, tant en Russie qu'en Amérique. Il écrit « Elles étaient décorées au hasard, ces maisons, pour produire un effet clinquant selon les caprices éclectiques de leurs propriétaires ou bien revêtues selon les lubies du constructeur lui-même d'une apparence de style et le plus souvent, on leur donnait une allure moderne. En Amérique, ces maisons, elles se multipliaient tout simplement arithmétiquement en se dressant verticalement dans l'espace. » Alors, un des laboratoires du constructivisme, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est le théâtre, et je ne résiste pas à la tentation de revenir sur l'installation de Lyubov Popova pour la mise en scène de Meyerhold en 1922, pour le Cocu Magnifique. Vous voyez cette étude qui est un collage effectué sur une planche de contreplaqué, un collage dans lequel apparaissent toute une série d'éléments qui sont des éléments, vous voyez ici des machines ou un tracteur, des éléments découpés dans des catalogues de produits mécaniques américains. Viesnin, qui est d'ailleurs l'amant de Popova, et donc qui est très proche d'elle, je dirais, dans la problématique picturale et dans la réflexion, et tous les deux sont très proches de Tatlin, travaille quant à lui pour Taïrov, un autre des metteurs en scène de l'avant-garde russe, à une mise en scène pour une pièce qui s'intitule « L'homme qui était jeudi », qui opère également, vous le voyez, comme une grande machine scénique, comme Popov a parlé, je l'ai dit la semaine dernière, de Stanok, d'établi pour rendre compte de ces machines. C'est un peu la même chose que l'on voit chez Viesnine. Viesnine sera considéré à la fin des années 20 par Le Corbusier, lorsqu'il fera son premier voyage à Moscou en 28, comme le père du constructivisme architectural. Et c'est effectivement Viesnine qui, pour le premier, dans les projets qu'il étudie avec ses frères Léonide et Victor, et aussi dans ses rares écrits théoriques, va problématiser cette attitude. Vous voyez ici, en 1922, un des premiers projets de grande ampleur, très, très important dans la production architecturale russe. C'est un concours qui s'organise à Moscou pour un palais du travail, pas très loin de la Place Rouge, et vous voyez que le bâtiment qu'imagine Léviestine est un bâtiment qui n'a rien d'unitaire, dont les composantes sont assemblées, des composantes qui sont clairement identifiées comme étant ici une grande salle de spectacle, ici une tour de bureau, sont assemblées de manière très visible. Leur tectonique est très pérétienne d'ailleurs, on y voit une ossature de béton à l'extérieur, et surtout ce sont des bâtiments, je dirais, communicants, des bâtiments qui participent pleinement de la propagande monumentale de l'époque. Deux autres projets importants des Viesnine, ce sont des projets pour de nombreux concours qui se tiennent à Moscou dans cette période. On ne construit strictement rien, très peu. En revanche, on fait énormément de concours. Ça occupe les architectes, ça met un peu d'argent dans les circuits. Et vous voyez ici un des projets des Viesnine pour un bâtiment de bureaux pour l'Arcos, qui est une société de commerce avec la Grande-Bretagne. Je parlerai de son homologue Lamtorg la semaine prochaine. Et ici, alors, un projet qui est beaucoup plus important, projet pour un immeuble l'immeuble d'un journal, la Pravda de Leningrad, qui établit un siège à Moscou, construit sur une toute petite parcelle et qui est en fait, en tant que tel, une machine. Ce bâtiment est imaginé comme une sorte de gigantesque bâti de presse d'imprimerie qui serait élevé à la verticale et sur lequel on voit apparaître un thème que j'identifiais déjà dans un projet de Leonidov la semaine dernière pour un journal aussi, le thème de l'ascenseur extérieur, qui est un thème que l'on ne trouvait pas, sauf pour les ascenseurs de chantier dans les gratte-ciels américains. Ce bâtiment est aussi une machine de propagande, c'est aussi une machine qu'il faut voir en écho à ce que les Russes savent et reproduisent du monde des journaux lumineux. Et je ne pense pas seulement à Broadway, je pense aussi à Piccadilly, à Londres, à Berlin. Donc c'est un bâtiment qui est censé être extrêmement animé la nuit et servir la propagande du régime. Alors, Viesnine sera le président de l'OSA, de l'Organisation des architectes contemporains ou modernes. La véritable cheville ouvrière sera Moïse Ginzburg, dont je parlerai beaucoup ce soir. Ginzburg est un architecte intéressant. Comme beaucoup de ses camarades qui étaient juifs, il ne pouvait pas faire d'études à cause du rigide numerus clausus des établissements universitaires russes dans l'Empire, et il fit ses études en France, marginalement, à Toulouse, et surtout à Milan. Il avait donc une très grande connaissance de l'architecture en Europe, il avait lu beaucoup de livres qui n'arrivaient pas nécessairement jusqu'en Russie. Ses premiers travaux sont des travaux, vous voyez, d'ordre plutôt ethnographique. Ses premières publications portent sur les édifices laissés par les Tatars en Crimée. J'espère que les soudards de Poutine les ont laissés, si la Wehrmacht les a épargnés. J'évoque aussi les premiers projets de Ginzburg autour de 1915, un projet très intéressant, à mon avis, assez mystérieux dans sa genèse, qui est le projet d'une maison pour un nommé Lokshin à Eupatoria en Crimée, que Ginzburg publiera lui-même plus tard. Et vous voyez que ce bâtiment a une troublante ressemblance avec certaines maisons de Frank Lloyd Wright. J'ai notamment rapproché ce bâtiment de la maison Hurtley de Oak Park. Et vous voyez l'entrée avec ses bossages très très saillants, qui est d'ailleurs un thème de Richardson que reprend Wright. Vous voyez aussi l'idée du toit débordant bien qu'il n'y ait pas ici de fenêtres en bande, mais d'autres éléments de la maison peuvent faire penser à des maisons proches de la maison Hertley. Donc dès 1915, quelqu'un comme Ginsburg connaissait les bâtiments de Wright par les publications qui en avaient été faites en Allemagne. Je reviendrai beaucoup à nouveau sur le prisme allemand aujourd'hui. Ginsburg, en 1923, devient le rédacteur en chef d'une revue importante qui s'appelle L'Architecture, qui est la première revue post-révolutionnaire. Toutes les revues avaient cessé leur publication en 1917, elles reprennent en 1923. Cette revue est celle de la Société des architectes de Moscou, la MAO, et Ginsburg publie un article très important sur les silos à blé américains, intitulé « Esthétique de la contemporanéité ou esthétique de la modernité », illustré par ce petit dessin. Et c'est évidemment un article important, puisque les silos à blé avaient été, comme on le voit ici à droite sur cette page des annales du Werkbund publié en 1913 par Gropius, les silos avaient été un des thèmes visuels, un des thèmes fétiches des modernes dès avant la guerre de 14, repris de Gropius par Le Corbusier, qui avait dans une retouche fameuse blanchi à la gouache les petits frontons de ce silo de Buenos Aires. Donc, les silos étaient un des tropes architecturaux et visuels des modernes européens, de Gropius, de Le Corbusier et de quelques autres. Cela a été magnifiquement analysé par Rainer Banham dans son livre Concrete Atlantis. Alors, Ginsburg a une position originale. Il prend tout à fait soin de ne pas reproduire les mêmes images que ses camarades occidentaux. Il va chercher dans des revues techniques russes de l'industrie des céréales d'autres photos de silos, des photos plus récentes. Celui-ci, par exemple, c'est un silo qui se trouve à Red Hook, à New York, et qui est construit après la guerre, donc il n'a rien à voir avec les autres. Et surtout, il en fait une analyse assez intéressante. Ginsburg écrit notamment, dans une problématique qui est assez formaliste et qui est au fond presque une paraphrase de celle de Le Corbusier, la sagesse de l'économie des matériaux et de l'énergie, la précision du mouvement des formes, du mouvement des éléments, donc de ces silos et de leurs liaisons, le langage laconique de cette forme, la franchise sans phare de leur composition et la détermination claire de l'axe de ce mouvement, du mouvement des éléments, telle est l'esthétique de la machine moderne dans laquelle se trouvent évidemment beaucoup d'indications pouvant fonder le travail des artistes. Donc le silo comme paradigme. Et dans cette phase, les bâtiments industriels européens et américains, poursuit-il, de la dernière décennie, les silos puissants, les centrales et les moteurs électriques, avec le dynamisme et la monumentalité moderne qui leur sont liés, avec leur pathos de leurs conditions de travail, avec la nudité lapidaire de leurs formes, sont des réalisations significatives. Ils constituent une conquête presque unique dans la recherche de la forme architecturale moderne. Donc, dans un premier temps, Ginsburg s'intéresse à ces silos essentiellement dans une problématique formaliste qui correspond assez à celle de son premier livre. En 1923, le premier livre de Ginsburg, Le rythme dans l'architecture, petit opuscule très passionnant, qui était les notes des cours qu'il donnait à l'école d'ingénieurs de Moscou. Le rythme dans l'architecture, c'était un livre wölflinien, je dirais, complètement fondé sur une problématique esthétique de l'architecture. Il faut savoir que tous les théoriciens de l'art allemand était traduit en russe, ce qui était loin d'être le cas en français. Par exemple, Renaissance et Baroque de Wölflin, que Ginsburg cite longuement, ne sera traduit en français qu'en 1967, si je ne me trompe, peut-être même 68. 1924, Ginsburg produit son ouvrage le plus ambitieux, Le style et l'époque, problème de l'architecture contemporaine. C'est un livre dans lequel des rapprochements intéressants sont suggérés. Le rapprochement que vous voyez ici entre la tour de Tatlin et les silos de Buffalo. Ginsburg ne fait pas comme Le Corbusier qui dénonce les turpitudes des architectes américains avec des images, il le fait, mais il le fait par le texte. Il écrit, je cite, « Cette nouvelle puissance nationale, donc les États-Unis, qui n'a pas eu le temps de constituer sa tradition et son expérience artistique propre, se tourne tout naturellement vers l'Europe. Fidèle aux idéaux empâtés de son système classique, l'Europe commence à exporter ses produits à travers l'océan. Pourtant, l'Amérique du Nord, cette grande puissance vitale, ne peut, malgré ses propres souhaits, suivre un cours qui a été celui de l'Europe, tant elle est efficace en affaires, dynamique, sobre, mécanisée et exempte de romantisme, Et tout ceci intimide et tient à distance une Europe placide. Néanmoins, dans son désir d'être aussi bonne que l'Europe, l'Amérique continue à importer l'esthétique et le romantisme européen, comme s'il s'agissait d'articles qui avaient subi l'épreuve du temps et avaient été en quelque sorte brevetés. C'est donc un aspect singulier de l'Amérique qui émerge ici, dans son architecture, et pas dans ses silos, une horrible mixture mécanique d'éléments nouveaux, organiques, purement américains, avec les enveloppes superficielles d'un système classique dépassé, « made in Europe ». Alors, voilà les pages du style de l'époque, qui est traduit en français depuis quelques années. Il est intéressant de voir Ginsburg être attentif à présenter, je le disais, d'autres images de ces édifices, de s'attarder aussi sur quelques édifices américanistes ou américanisés d'Europe, comme la fabrique, l'usine Fiat du Lingotto à Turin. Là encore, la photo n'est pas celle que Le Corbusier avait publiée le premier dans Vers une architecture. Et il s'intéresse aussi, plus au-delà de l'analyse de ces bâtiments comme entités en quelque sorte statiques, comme saisies comme des images, il s'intéresse à des éléments plus dynamiques. Un des points, une des positions fondamentales du style et de l'époque, ma légende est mauvaise, une des positions les plus fondamentales du style et de l'époque, c'est de s'intéresser à ce qui met met dans un mouvement apparent certains édifices du premier constructivisme. Ici, c'est le palais du travail des Viesnines qu'on a vu auparavant, et Ginsburg en fait une analyse dans laquelle il explique que ce bâtiment est en fait en mouvement, il est porté par un mouvement oblique qui l'oriente vers un plan qui lui est extérieur, au lieu d'être statiquement posé autour de son axe de symétrie. Il le compare à la petite coupe d'une église gothique. Donc, ce livre, Le style et l'époque, est un programme qui propose une architecture dynamique, une architecture qui se mettrait à l'écoute des machines. Et c'est ce que va préconiser la revue SA, ou l'architecture contemporaine, lisez moderne, qui est publiée à partir de 26 sous la direction de Ginsburg. Cette revue est extrêmement importante, elle est mise en page par Gann, donc c'est une sorte d'œuvre d'art totale du constructivisme, et plus tard aussi par Rodchenko. Elle est publiée de 26 à 30, et elle contient des analyses, des slogans extrêmement intéressants, comme celui que vous voyez ici, avec cette composition typographique, « Architecte, n'imitez pas les formes de la technique, ne copiez pas les avions, mais apprenez la méthode du constructeur ». Donc il y a là une polémique vis-à-vis de ceux qui avaient observer les avions, évidemment Le Corbusier et ses yeux qui ne voient pas les avions dans Vers une architecture, Le Corbusier en tirait des leçons d'économie, mais n'en tirait pas de leçons structurelles du point de vue de la méthode de projet, c'est ce que les constructivistes essayent de faire. Dans cette revue apparaissent aussi d'autres aspects de l'américanisme que je cite au passage. J'y reviendrai peut-être, mais c'est dans les pages de cette revue qu'il y avait évoquer le livre de Mendelssohn, America, livre d'image d'un architecte, comme je l'ai dit, c'est dans les pages de cette revue qu'est discuté, par exemple, le livre de Neutra, jeune architecte viennois émigré aux États-Unis et qui envoie de Los Angeles à Stuttgart en 1927, un livre passionnant, qui est immédiatement commenté dans SA, dans la revue des constructivistes. Pourquoi est-il considéré comme important au point d'être traduit en russe à partir de l'allemand, c'est ce que vous voyez à gauche, et à droite une page de cette édition. Pourquoi Neutra est-il considéré comme important? C'est que Neutra a construit son livre sur la critique de celui de Mendelssohn, avec qui il avait travaillé. Donc il tue son père Mendelssohn, il va travailler avec lui à Berlin pendant quelques années, en disant que Mendelssohn n'a rien compris à l'Amérique parce qu'il n'est resté que quelques semaines, et que lui, qui a fait le sacrifice d'y être, il a tout compris, parce qu'il a notamment travaillé dans les agences d'architecture de Chicago. Ce que vous voyez à droite, c'est une planche du livre de Neutra, version russe, avec ses propres photos du chantier d'un grand hôtel de Chicago qu'il a suivi pour l'agence de Roche et Hollabird. Donc, une autre vision de l'Amérique, et les Russes sont évidemment très avides de la partager et de la diffuser. Ce qui est remarquable, et ce qui nous montre au passage l'ampleur du champ de l'américanisme, c'est que ce livre n'est pas préfacé par un rationaliste comme Ladovsky, par un constructiviste comme Ginsburg, mais par Alexei Choussev, qui est un architecte éclectique, extrêmement doué, virtuose, mais complètement, je dirais, agnostique vis-à-vis de la modernité. Ça ne l'intéresse pas. Quand il faut être moderne, il est moderne. Quand il faudra faire le siège du GPU à Moscou, eh bien, il utilisera comme modèle le palais de Vignoles à Caprarole, à côté de Rome, sans aucun état d'âme non plus. Chioussef analyse le livre de Neutra dans une préface très intéressante, mais critique ses conclusions. Neutra dit que seules les données dures, le programme et la construction doivent fonder l'architecture. Il y a de quoi plaire au constructivisme, mais ça ne plaît pas à Chioussef, qui déplore le fait qu'aux États-Unis, l'ingénieur constructeur ait remplacé l'architecte projeteur. Et que donc, Chioussef conclut, il faut s'intéresser aux techniques américaines, mais pas à l'architecture américaine. Ça n'est pas le propos des constructivistes qui s'intéressent, par exemple, aux pages que Neutra consacre à l'architecture de la côte ouest. Ce livre est extrêmement important, pas simplement pour les Américains, mais déjà dans sa version pour les Russes, mais déjà dans sa version allemande, car c'est un des premiers livres qui déplace le regard de l'américanisme vers l'ouest, et notamment vers Los Angeles, au travers ici des projets d'un autre Viennois, d'un ami de Neutra, qui est encore. Ils sont encore amis à l'époque, qui est Rudolf Schindler. C'est le Pueblo Ribera à La Jolla, petit ensemble très charmant et bien restauré aujourd'hui de bâtiments en parpaing qui sont un écho des Pueblos indiens et dans le même temps qui ont une géométrie très viennoise. C'est ça qui intéresse les constructivistes qui ne dédaignent pas du tout ce que Chioussef condamne. Alors, maintenant, un texte extrêmement important qui est un peu le pivot de la position du groupe constructiviste autour de la question de l'américanisme. C'est un article qui est publié par Moïse Ginsburg en 1927, dans toujours la même revue, SA. Ma traduction est sans doute contestable, le terme est difficile à traduire, Tselevaya Ustanovka, le dispositif, l'arrangement, la disposition des usages, on pourrait dire aussi fonction si le terme n'était pas si connoté, le dispositif des usages dans l'architecture contemporaine, l'ire moderne. De quoi s'agit-il ? Ginsburg, qui avait auparavant célébré la machine et qui s'était fait condamné par les autres architectes de l'avant-garde, les rationalistes, dont j'ai parlé la semaine dernière. Les rationalistes avaient condamné ce qu'ils appelaient, et c'était effectivement, ce sont des termes qui pesaient lourd dans le discours politique russe de l'époque, Lasnova condamnait la phrase de gauche dans l'architecture. La phrase de gauche, c'était Ginsburg qui, dans un article précédent, avait dit que la véritable patrie du constructivisme, au fond, c'était l'Amérique. Très, très convergent avec ce que j'avais cité de Trotsky, de Bukharine et de quelques autres la semaine dernière. Donc les gens de Lasnova avaient condamné tout ça. Ginsburg affirmait déjà à l'époque, dans son premier texte, sur le front de l'architecture moderne, que l'architecte devait cesser d'être un décorateur de la vie pour devenir un organisateur, c'est-à-dire un technicien semblable aux ingénieurs de méthode sur le modèle taylorien qui se répandent alors dans les usines russes. Et c'est ce qu'il accomplit avec son texte de 27. Donc, vous voyez, il présente un hangar à dirigeable, des schémas d'organisation d'usine et notamment un plan d'usine dans lequel on devine l'emplacement des machines, en évoquant directement les travaux de Galbraith. Et je reviens ici sur cette vue d'une maquette de travail de Frank Galbraith dans laquelle il étudie la disposition de la production dans une usine à étages multiples en mettant en place les machines-outils et en essayant de s'intéresser au flux du produit en cours de production et au flux des ouvriers. C'est là-dessus que porte pour l'essentiel le texte de Ginsburg qui met au centre de sa conception d'une méthode fonctionnelle de conception deux notions qu'il définit comme étant complémentaires dans son texte de 17. Ces notions, c'est ce qu'il appelle le graphic vigenia, le graphique de mouvement, le diagramme de mouvement, c'est ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire la manière dont la production s'organise, le fil selon lequel se déplace l'objet de la production. Et le deuxième outil, c'est ce qu'il appelle le schema abarudovania ou le schéma d'équipement, c'est-à-dire la manière dont sont déployées dans l'espace les machines que ce produit doit rencontrer au cours de sa vie, en passant de l'état de composant d'acier ou de je ne sais quoi à l'état de produit fini. Donc, l'architecture devra ajuster le graphique de mouvement et le schéma d'équipement. Ginsburg s'appuie pour proposer ces notions sur le discours de Ford, Henry Ford, qu'il cite directement, dont le livre « Ma vie et mon œuvre » a été traduit en russe en 24 et a eu des tirages phénoménaux. Très clairement, il est fordien ici. Et il considère dans son travail, que le, dans son propos, que l'usine, et je reviens ici sur ses premiers plans d'usine, que c'est l'étude de l'usine qui va conduire à repenser toute l'architecture. Il écrit « La destination, parfois définie par un seul mot, usine, club, habitation, etc., doit, après une analyse méticuleuse, être matérialisée et rapportée par l'architecte à un système précis de processus productifs et sociaux. Ces processus sont d'habitude associés à l'image que nous faisons de la fabrique, de l'usine. Les processus sociaux de l'habitation et des bâtiments collectifs n'ont pas de différence fondamentale avec ceux de l'usine. Le processus de production dans n'importe quelle entreprise industrielle aboutit à la production d'un produit donné. Il est dynamique, conséquent, et son mouvement suit une direction précise du début à la fin des opérations. Il est unitaire et, si possible, ininterrompu, mais n'en est pas moins découpé clairement en séquences distinctes. La dynamique du processus de production peut être facilement représentée par un graphique de mouvement. Le graphique de mouvement, c'est le chemin que parcourt la chaîne de montage décrivant tout le processus du début à la fin, de machine en machine. Le schéma d'équipement, c'est le système des différentes machines et des outillages qui permettent de réaliser les différentes étapes du processus de production. C'est très clair. Alors, pour démontrer tout cela, Ginsburg s'appuie sur des dessins d'usine, mais il s'appuie aussi sur d'autres choses, et notamment sur une première application des théories de l'organisation scientifique du travail, de scientific management, à la maison et notamment à la cuisine. C'est ce que fait Christine Frederick, une propagandiste pour l'organisation ménagère célébrissime aux États-Unis, dans son livre The New Housekeeping en 1913, un livre qui est traduit en allemand et qui est à la base des analyses de Bruno Taut, des grandes figures de l'architecture berlinoise de ce moment-là. Taut, dans son livre La nouvelle habitation, s'intéresse au parcours, à la rationalisation des parcours d'après Christine Frederick. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est Taut qu'illustre ici Ginsburg. Donc vous voyez ce cheminement à nouveau par l'Allemagne, des États-Unis à Moscou en passant par l'Allemagne, et dans ce cas en passant plutôt par la cuisine. Cet article très important de Ginsburg contient beaucoup d'autres considérations, notamment, et là il se rapproche très clairement de Le Corbusier, des considérations et des Allemands sur les espaces minimaux, sur les habitacles des avions, vous voyez à droite, sur le mobilier escamotable, le mobilier mobile, qui est très important pour les Russes dans une période où les surfaces des habitations ne cessent de rétrécir, on construit très peu et l'urbanisation est galopante. Il évoque aussi, au passage, Wright, qu'il connaît bien, pour expliquer que les positions de Wright sont des positions très, très avancées pour ce qui est justement de cette fluidité qu'il recherche avec le graphique de mouvement. Alors, ces idées se précisent dans le champ de l'habitation en 1928-29 sur le terrain, lorsque Ginsburg construit cette maison commune pour le Narkomfin, qui est le commissariat du peuple aux finances, donc maison commune dans laquelle des cuisines rationalisées, ici très petites ou plus grandes, sont installées, bâtiment dans lequel les parcours sont étudiés très, très sérieusement, le tout dans un langage d'ensemble très corbuséen et avec des techniques allemandes. On sait aujourd'hui, c'était absolument inconnu, oublié jusqu'à présent, combien des Allemands présents à Moscou dans cette période ont travaillé sur ce bâtiment, apportant à la fois les techniques et des pratiques comme celle de la polychromie. 1929, Bacht et Vladimirov, qui sont deux membres de l'OSA, signent une étude très, très importante sur les maisons communes et leur équipement. Ils dessinent une maison commune pour plusieurs milliers d'habitants, c'est l'apogée du discours collectiviste de l'OSA, celui dans lequel Anatole Kopp a voulu voir son caractère révolutionnaire, l'idée de liquider la famille, liquider l'école, pas complètement, mais de liquider tous les modes de production de la vie quotidienne individuelle et de créer de gigantesques phalanstères modernes. Et à l'intérieur de ces gigantesques phalanstères, eh bien, les leçons de Ginsburg ne sont pas oubliées. Vous voyez ici l'analyse, bon, c'est un peu petit, de la cellule F1, d'une cellule à étage multiple, qui est celle qu'on voyait d'ailleurs au Narcomphine dans une maquette que Kopp avait faite dans les années 60. Donc cette cellule, vous voyez qu'elle est étudiée sous l'angle, c'est assez petit, du graphique de mouvement, sous l'angle des proportions aussi et sous l'angle de l'équipement. Et ici à droite, vous voyez que le réfectoire de cette grande maison commune que je montrais auparavant devient une usine à manger avec cette bande transporteuse qui apporte les assiettes de soupe aux prolétaires affamés. Le travail sur la cuisine que propose le Stroikom, ce comité pour lequel travaille Bash et Vladimirov, s'arrête également sur les cuisines de manière très précise, et vous voyez qu'il oppose la cuisine confuse, traditionnelle, à la cuisine rationalisée grâce aux préceptes enseignés par Christine Frederick. Et quant à l'équipement de la maison, il est aussi de ces logements minimaux, il est aussi américain, douche, cabine de douche américaine, petite cuisine compacte à l'américaine également. En 1934, Ginsburg publiera un dernier livre sur l'habitation, qui est un livre dans lequel ses positions constructivistes, depuis, beaucoup de choses sont intervenues, et notamment, évidemment, la fusion des associations d'architectes, la construction d'une espèce de système unifié, étatisé, contrôlé par le parti dans le domaine de l'architecture. Donc ces remarques sont beaucoup plus, implicites que dans ces articles des années 20. Il n'empêche que l'Amérique continue à être une référence à l'horizon, que ce soit l'architecture de Wright à Oak Park ou à Chicago, la maison Roby, la maison Freeman à Los Angeles. Donc, en dépit de la recherche que l'on vient de voir des surfaces minimales, les solutions architecturales de Wright restent à l'ordre du jour pour lui. Dans le même temps qu'il célèbre la préfabrication telle qu'elle s'est développée sur les chantiers de Francfort, mais elle s'y est développée en rapport à l'initiative d'Ernst May, qui a ensuite apporté ses méthodes de travail en Russie, elle s'y est développée à partir d'une idéalisation du fordisme. Et enfin, on retrouve à nouveau en 1934 cette idée des espaces minimaux qui avait d'ailleurs été discutée dans un des premiers congrès internationaux d'architecture moderne dont viennent ces images. Dans cette phase, une nouvelle génération de constructivistes est entrée en action. Et je voudrais évoquer deux de ces figures ici. La première, c'est celle d'Andrei Bourov, qui est un élève de Viesnine. Avec Viesnine, Bourov avait étudié au Froutemas une gare, une grande gare. Sans doute peut-on y voir quelques échos de Grand Central Station à New York ou de la gare de Cincinnati, qui est la plus grande gare américaine construite dans les années 20. Vous voyez ici ce gratte-ciel de bureau avec ses ascenseurs extérieurs, comme dans le projet des Viesnine que l'on a vu avant. Bourov, et c'est tout à fait intéressant, travaille avec Eisenstein et il est l'architecte des décors de la ligne générale d'Eisenstein. Je vous montre ici un très court extrait de ce film. Vous voyez que le Sovkhoz modèle, objet d'envie pour l'héroïne du film, la paysanne Marfa Lapkina, qui a beaucoup de mal à collectiviser son village, elle a l'impression de découvrir une scène de rêve avec ce Sovkhoz moderne, dans lequel on trouve certaines formes ressemblent à des silos à blé américains et d'autres semblent être un collage assez maladroit d'éléments issus de l'architecture de Le Corbusier. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce film, c'est quand elle va à la ville chercher le bon qui va lui permettre d'avoir le tracteur pour son village, elle découvre une ville américanisée. C'est le Gosprom, c'est l'ensemble des ministères construits à Kharkov, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui devient l'emblème du pouvoir de la bureaucratie dans une Russie qui est au seuil du plan quinquennal. Elle obtient enfin son papier, sa boumashka, qui va lui permettre d'aller acheter son tracteur, mais elle l'obtient dans un bâtiment qui symbolise l'efficacité du pouvoir et qui est un bâtiment américain. Alors, Bourov s'est documenté. et à travailler. Vous voyez à gauche ces croquis dans lesquels il s'approprie les silos à blé que Ginsburg avait célébrés, accouplés avec un bout de Villa Savoie, ici, c'est assez, un collage assez amusant. Ici, vous voyez que les constructivistes accueillent son projet, et c'est une page de la revue SA qui commente de manière très positive l'architecture du film, et cette architecture va circuler, ainsi que Bourhoff. Ici, à gauche, vous voyez que ce Soft Rose Model, qui est en fait un décor en carton, va être pris au sérieux par les Américains, va être publié comme un des premiers exemples d'une architecture nouvelle en Russie, dans le livre de Hitchcock en 1929. Il figurera même à ce titre dans l'exposition du Musée d'art moderne de 1932. Et à droite, vous voyez Bourhoff déguisé en cow-boy lorsqu'il visite les États-Unis. Je vous parlerai la prochaine fois des circonstances de ce voyage. Donc il aura l'occasion, ce sera un des rares architectes, d'avoir cette expérience directe de l'Amérique. Le metteur en scène du film, Eisenstein, va aussi aux États-Unis. Je voudrais parler brièvement de l'engagement d'Eisenstein avec les États-Unis. On sait combien le cinéma américain, notamment le cinéma de Griffith, avait été très important pour lui. En 1930, il arrive aux États-Unis. Il va rester aux États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique, pendant pratiquement 3 ans, en ne parvenant pas à faire les projets que la Paramount était censée lui faire faire au début des années 30. Donc ce sera un échec pour ses premiers projets, et en ne parvenant pas non plus à obtenir un montage final de son film Que Viva México, qu'il va tourner au sud de la frontière. Eisenstein est un peu une personnalité autour duquel se jouent des choses très amusante dans la presse. Ici, une photo qui le voit rencontrer le célèbre chien Rin Tin Tin et commenté par lui à un moment où le FBI est à ses trousses comme étant à gauche le chien rouge, Eisenstein, et à droite la star de cinéma Rin Tin Tin. Mais ce qui est plus intéressant, plus sérieux et plus mystérieux, c'est un projet qu'Eisenstein poursuit à New York, un projet qu'il a commencé à développer en 1926 à Berlin. Ce projet, c'est celui d'un film qui se serait intitulé Glass House, non pas Glass House comme en allemand, mais Glass House, un projet qui est d'emblée situé dans une relation avec l'Amérique, un projet qui a été admirablement analysé par Nahum Kleiman et François Albera. Donc je ne prétends pas apporter quoi que ce soit de nouveau aujourd'hui, je le ferai sans doute par écrit. C'est à Berlin, en effet, que Eisenstein a l'idée d'un film satirique, écrit-il, sur l'Amérique, à partir des possibilités visuelles et de jeu qu'offrirait un gratte-ciel en verre. Quelle est l'idée ? L'idée qu'il va poursuivre en arrivant à New York en 30, au point qu'il ira jusqu'à Pittsburgh pour discuter avec les ingénieurs des usines de verre. Son idée, c'est d'imaginer un gratte-ciel en verre. Et vous voyez que ce gratte-ciel aurait des balcons suspendus au-dessus de la rue, dans ce dessin, vous voyez, qui est commenté en anglais. C'est un balcon suspendu au-dessus de la rue. Vous voyez les voitures ici, le balcon vu d'en dessous, cette idée de pouvoir voir le bâtiment par en dessous, avec ces sortes de compositions suprématistes que l'on trouve aussi dans ce croquis. Il s'agit de quoi ? D'un film qui permettrait une vue sur l'Amérique à travers les murs, une mise en forme à travers la parodie du matériau de la véritable Amérique, c'est-à-dire l'Amérique des clichés hollywoodiens, la réalité présentée comme élément parodique, comme si les clichés hollywoodiens étaient l'élément factuel. Donc c'est un projet très subversif dans lequel Eisenstein essaye de critiquer, de parodier les rôles et les intrigues du cinéma américain. Il le fait, et c'est tout à fait intéressant, en travaillant beaucoup sur le matériau, sur le verre, en essayant d'utiliser le froid des objets, écrit-il, le froid du verre par excellence, le cauchemar du verre lisse auquel il oppose d'autres formes de verre, à l'opposé du froid des murs de verre lisse, écrit-il, donner des scènes lyriques avec un verre mat et gaufré. Il s'intéresse aussi au contraste entre l'Amérique et la Russie, se proposant d'opposer à la maison de verre qui se brise à la fin du film, qui s'écroule, un village commun idéal, sans doute le village du film que l'on a vu. Et il a de très bonnes idées architecturales. Par exemple, il imagine l'escalier ou l'ascenseur, je cite, comme une arête de poisson ou une clé dans une poche lors d'une radio. La maison transparente est traversée par l'ascenseur noir, métallique, avec des feux sombres comme des yeux omnivoyants. Traduction de Valérie Posner. omnivoyant. Donc l'idée que cette maison de verre va être un dispositif qui va permettre d'observer de façon critique, satirique l'Amérique, qui va aussi symboliser le combat entre les affaires, les passions, le cynisme, les illusions, un très beau projet qui ne sera pas réalisé, mais sur lequel il continuera à travailler. D'où viennent les sources, d'où vient l'idée de la Glass House ? Non pas tant de la chaîne de verre, de la Gläsernerkette de Taut et autres, mais sans doute beaucoup plus du gratte-ciel en verre dessiné par Mies van der Rohe à Berlin en 1922 et qui est publié d'ailleurs dans les pages de SA et dans toutes les revues soviétiques. Et ce qui relance aussi le projet à New York, c'est très important, c'est la rencontre par Eisenstein de ce projet de Frank Lloyd Wright, un projet qui ne sera pas réalisé par Wright, qui est un projet de tour en verre pour St. Mark's in the Bowery dans le Lower East Side de New York, un projet qui est abandonné en 1930 mais qui est très largement diffusé. Eisenstein colle dans son journal de travail une coupure du New York Times qui est celle-ci sur cette tour de verre qui ne verra pas le jour à New York avant les années 50, il faut le rappeler. Alors, un autre jeune constructiviste dont je parle très rapidement, je reviendrai sur lui aussi, c'est Leonidov, élève aussi de Viesnin, qui réfléchit, lui, très littéralement à la Glass House, c'est pour ça que je les rapproche, dans son diplôme tout d'abord, qui est ce projet d'Institut Lénine en 1927, c'est une bibliothèque. C'est l'ancêtre de la bibliothèque de Perrault, dans une certaine mesure, puisque les livres sont stockés dans des tours en verre, mais de façon volontaire, et non pas à la suite des vicissitudes du programme comme à Paris. C'est aussi un projet très, très remarquable par l'idée de la possibilité d'une transmission électronique à distance du contenu des livres. C'est évidemment totalement fantasmagorique à l'époque. C'est le premier projet. Un deuxième qui est aussi tout à fait remarquable et qui est un projet de concours, c'est cette maison de l'industrie, un gratte-ciel complètement en verre, dont les circulations sont extériorisées. Une idée tout à fait nouvelle. Et aussi, vous voyez apparaître l'idée de ce que les Américains appellent aujourd'hui le sky lobby, du foyer en plein air, c'est-à-dire l'idée de pouvoir créer des espaces publics dans la hauteur du gratte-ciel. Très, très original projet. Enfin, Leonidov participe, comme beaucoup d'autres Russes, là aussi j'y reviendrai, au concours pour un monument à Christophe Colomb à Saint-Domingue en 1929, dans lequel il est le seul à ne pas faire de bâtiment, c'est-à-dire à dissoudre complètement le bâtiment, à le réduire à une gigantesque antenne que vous voyez ici. Donc c'est une esthétique de la disparition du verre, on passe à la disparition de l'architecture dans ces projets de Leonidov. Alors, je voudrais maintenant évoquer le volet urbanistique de cette histoire, très rapidement pour conclure, en évoquant d'abord les projets de Nikolai Miliutin. Miliutin n'est pas un architecte, ou plutôt c'est un architecte frustré. Il finira ses études à la fin des années 30 avec Ginzburg, mais il est, à la fin des années 20, commissaire du peuple aux finances pour la République de Russie, et pour loger ses employés, c'est lui qui commande la maison commune de Ginzburg, que l'on a vue. Il se réservera, en haut de la maison commune, ce qu'on appelle aujourd'hui en russe moderne un penthouse, un appartement à deux étages que vous voyez ici, qui est très cassé, mais qui existe, dont la carcasse existe toujours, et dont il dessine lui-même, il n'est pas mauvais, quelques vues aquarellées. Surtout Miliutin s'intéresse au débat sur la ville russe qui se développe dans cette période. Et c'est un débat qui porte notamment sur la question de savoir s'il faut construire des villes ou s'il faut dissoudre les villes dans le territoire, dans une application littérale du propos de Marx et d'Engels sur la suppression de la contradiction entre la ville et la campagne, une liquidation qui passerait par la suppression des villes essentiellement capitalistes. Donc certains théoriciens extrémistes sont sur cette position, pas de ville, d'autres considèrent que les villes en tant que telles sont positives et doivent être conservées, c'est ceux qu'on appelle les urbanistes. Et Miliutin a une position plutôt intermédiaire entre les désurbanistes dont je vais parler, les urbanistes, et propose de créer des villes linéaires industrielles. Pour cela, il s'appuie sur un ensemble de sources qu'il orchestre dans un livre qu'il publie en 1930. La première source, c'est l'idée de la ville linéaire, de créer des formations linéaires qui relieraient les villes existantes ou qui leur permettraient leur extension. Ce dessin de l'espagnol du madrilène Soria y Mata est publié par exemple par Lisitsky en 1930 dans un livre que connaît Miliutin. C'est l'idée d'une ville linéaire de liaison. Soria y Mata avait imaginé, par exemple, de relier Barcelone et Valence par ce genre de dispositif. En 28, dans une revue que connaît très très bien Miliutin, c'est une des rares revues d'architecture russe du moment, Lavrov, qui est un jeune architecte, publie un schéma de ville linéaire un peu différent avec des centres, qui est en fait dérivé de l'interprétation qu'en a donnée l'économiste social français Charles Gide. Vous voyez, l'idée de Soria y Mata arrive à la fois directement et filtrée par Gide. Et surtout, Miliutin va la croiser avec une autre idée fordienne, extrêmement importante. Ford avait, au début des années 20, élaboré un projet, avait fait une proposition au Sénat des États-Unis pour reprendre en main la gestion du Wilson Dam, de ce grand barrage qui avait été construit sur le Tennessee. Vous voyez ici sur le Mississippi, pardon. Vous voyez ici ce grand barrage, à côté duquel une gigantesque usine d'azote devait être construite pour fabriquer des munitions. Ford propose de reprendre ce projet et il en parle dans le livre que j'ai déjà évoqué, Ma vie et mon œuvre. Son idée est de créer une ville linéaire qui s'étendrait sur 75 miles et qui permettrait où résideraient les travailleurs qui seraient affectés à des ateliers de production décentralisés. Donc l'idée de créer un territoire industriel décentralisé parallèle à un fleuve. Et c'est ce qui va inspirer Miliutin dans son livre programmatique de 1930, Svartgorod, ou la ville socialiste, dans lequel il présente ses hypothèses. Il présente les sources de son raisonnement, ses hypothèses. C'est un livre, et j'évoque brièvement le background politique de tout ça, c'est un livre qui est dédié à Alexandre Smirnov, qui est un dirigeant bolchevique, qui est plutôt un boukharinien, qui est opposé à une collectivisation brutale, qui considère qu'il faut y aller avec doigté vis-à-vis de la paysannerie, et qui ne tardera pas à se faire exclure du parti avant de se faire fusiller à la fin des années 30. Les exemplaires du livre de Miliutin conservés dans sa famille ont été conservés après que la page d'hommage à Smirnov en ait été arrachée parce qu'elle devenait dangereuse dans les années qui suivirent. Alors, Miliutin propose essentiellement trois plans, et je les montrerai rapidement, de villes, dans lesquelles, qui sont toutes des villes situées à proximité de cours d'eau, dans lesquelles la logique du plan de la ville est absolument déterminée par celle de la production. Ici, c'est la plus caricaturale, Nijni Novgorod, un projet d'usine que vont construire les Américains. Miliutin prévoit que la ville va suivre très précisément les ateliers de l'usine et se développera de manière parallèle. Donc il n'y a pas de composition ici, pas de composition urbaine traditionnelle, c'est la chaîne de montage qui dicte sa loi à la ville. Ici, c'est le même principe, c'est moins détaillé, c'est le même principe pour l'usine de tracteurs de Stalingrad, une ville linéaire dans laquelle la zone de production suit la zone résidentielle à travers une zone verte. Évidemment, ce système ne règle en rien le problème de la mobilité des ouvriers entre les postes de travail, le problème des couples qui ne travaillent pas dans le même atelier. C'est une simplification grossière, mais dessinée et calculée dans les investissements nécessaires avec la plus grande gravité par Miliutin. Enfin, un autre projet important, celui de Magnitogorsk, où vous voyez le dispositif un petit peu différent, puisque l'idée d'un centre-ville est conservée, qu'une zone résidentielle, la zone résidentielle est répartie de chaque côté des circulations principales. Ce qui est important quand même, c'est de noter combien ce projet n'est pas un projet d'architecte urbaniste, mais un projet d'homme politique qui va devenir, par la suite, ayant été marginalisé, ayant échappé, on ne sait pourquoi, aux purges, j'ai mon hypothèse, fera des études d'architecture à la fin de sa vie et des années 30. Un autre projet très important, ou deux projets très importants sur lesquels je conclurai, ce sont les projets des constructivistes qui deviennent, à la fin des années 20, les désurbanistes. Que s'est-il passé ? Au milieu des années 20, les constructivistes étaient les partisans de la grande ville, de la ville très dense. J'en veux pour preuve l'article d'Alexander Pasternak, publié dans le premier numéro de la revue SA. Pasternak était le frère de Léonide Pasternak, l'auteur de Boris, pardon, Pasternak, Léonide c'était leur père, de Boris Pasternak, l'auteur du Docteur Jivago, architecte très fin, qui analyse dans cet article de la revue l'architecture américaine et qui notamment voit dans le gratte-ciel le prototype ou l'archétype de ce que recherchent les constructivistes, et ce qu'a souligné fort justement Anatole Kopp d'ailleurs, c'est-à-dire le condensateur social qui va permettre de précipiter les évolutions de la société. Pour Pasternak, on est en 26, le condensateur social ne peut pas être par sa nature dispersé ou étalé dans l'espace, il doit être le plus possible concentré en un seul point, ce point est le gratte-ciel. Nous ne nous étendrons pas, écrit-il, sur le programme détaillé du gratte-ciel qui est assurément bien connu de tous, il correspond avec précision au caractère de l'Américain pour lequel toute perte de temps superflue est insupportable. Dans la réalité quotidienne, en raison de nos habitudes et de notre mode de vie, ce sera différent, mais le principe sera le même. À droite, Okitovich, membre sociologue, membre de l'OSA, qui va prendre la position diamétralement opposée et qui va être le véritable théoricien du désurbanisme. Entre-temps, les constructivistes auront intériorisé le discours d'un autre réformateur et homme d'État dont je vais parler ici. Il s'agit de Valerian Obolensky, qui écrit sous le pseudonyme de Osinski et qui est un grand partisan, le partisan de l'automobilisation générale de la Russie. C'est très important. Obolensky est un homme qui a voyagé, il ira deux fois aux États-Unis pendant sa vie, il sera aussi liquidé en 1938. C'est le créateur d'une revue qui s'appelle Za Rulyom, qui existe toujours, au volant, donc revue d'automobilisme. Et il se fait connaître notamment par un texte prophétique et programmatique, l'automobile américaine ou la charrette russe, la telega russe. Il écrit en 28, dans la première version de son texte, « L'automobile à bon marché est l'équipage des ouvriers et des paysans. » En Amérique, hein, l'automobile à bon marché est l'équipage des ouvriers et des paysans. « Chaque fermier possède sa voiture et même les ouvriers agricoles se déplacent en Ford. » Et il préconise que chaque paysan soviétique échange, je cite, « sa charrette classique, cet équipage universel mais totalement barbare, pour une camionnette, ce qui impliquera la construction des infrastructures nécessaires. » Donc il a un modèle d'une Russie automobilisée et il se dépensera à fond pour que l'État fasse des investissements dans le domaine de la production d'automobiles, notamment avec les Américains. J'en parlerai là aussi la semaine prochaine. Deux projets des désurbanistes vont répondre à cet idéal. Ces deux projets font suite à un article très important de Ginsburg dans la revue SA en 1929. Cet article est intitulé « Slushely, on a compris, on vous a entendu », qui est un article qui répond aux critiques qui ont été faites contre les maisons communes, dont vous vous souvenez, ces maisons communes gigantesques dans lesquelles une sorte d'idéal de contrôle était mise en œuvre, contrôle de la vie quotidienne, de l'horaire quotidien. Les constructivistes sont critiqués sur ce point et prennent un tournant vers une société qui irait vers la collectivisation de façon plus graduelle et qui se poserait le problème de l'individualisation des modes de vie. Ils le font avec deux projets. Le premier projet, c'est un projet pour la ville verte à côté de Moscou, qui est censée être une espèce de grande colonie de vacances pour une fraction de la population. Au lieu de faire une vraie ville verte, une ville dans la forêt, ils imaginent une ville complètement déstructurée et qui serait composée d'entités implantées dans la végétation, à côté des routes ou à côté des chemins de fer. L'année suivante, et c'est ici le projet sur lequel je voulais conclure aujourd'hui, ils participent au concours, les constructivistes, qui s'appellent désormais des urbanistes, qui ont changé le nom de leur organisation, qui s'appelle le secteur de l'architecture socialiste, et non plus l'organisation des architectes modernes. Les constructivistes proposent un schéma pour Magnitogorsk, qui est un schéma de dissolution de la ville. Vous voyez ici, vous retrouvez la forme du lac que l'on voyait dans le schéma de Miliutin, qui était à 90 degrés, vous voyez qu'il n'y a pas de ville. Il y a des usines, oui, mais il n'y a pas de ville. Il y a des routes le long desquelles des petites maisons sont réparties. Et cette position, elle est théorisée par Okitovich, qui écrit « La désurbanisation, c'est un processus centrifuge, un mouvement de rejet. Elle se fonde sur une tendance centrifuge identique dans le champ de la technique. Ford, malgré les conditions défavorables liées à la propriété privée du sol, étend sa production dans un espace marqué par les spécialisations des fabrications en fonction de la proximité des matières premières. » C'est le schéma qu'on a vu auparavant. « Le produit fini est issu de la rencontre des pièces détachées dans un atelier et les ateliers eux-mêmes sont soumis à une règle centrifuge. Dans le cas de Magnitogorsk, les équipements sont répartis. C'est un dessin, une analyse qu'on a fait COP en bas, très pertinente, qui montre combien les équipements sont répartis selon des fréquences variables le long de ces routes. Il n'y a plus de villes, il n'y a plus que des maisons le long des routes. Horitovitch est totalement centré sur l'hypothèse d'une utilisation de l'automobile. Il écrit que l'automobile, exigence provisoire entre l'existence de la ville et sa disparition, qui la reliera à la campagne dans un tout unique, l'automobile, il répète le terme, est le compagnon indispensable d'une industrie pas encore dispersée dans l'espace. Donc pour lui, c'est plutôt une transition, mais c'est malgré tout une politique qu'il propose. Je signale que la Russie soviétique produit en 1929 1766 automobiles et qu'elle en publie et qu'elle en produira 4226 en 1930. Les Américains en produisent en 1929 à peu près 2,5 millions, un chiffre qu'ils ne retrouveront d'ailleurs pas avant 1947. Donc il est clair que l'horizon transitionnel d'Horitovitch était utopique, tout comme son idée de ne plus construire d'immeubles collectifs, mais de construire des espèces de micro-villas Savoie sur pilotis qui auraient abrité la population. Et bien évidemment, ces positions contribueront à son discrédit. Il fera l'objet d'une procédure d'exclusion de l'Union des architectes au milieu des années 30. Et comme beaucoup de ces révolutionnaires, à l'exception peut-être de Miloutine, beaucoup de ces réformateurs, il est vrai aussi que ce projet avait été placé sous, avait été dédié, le projet de Magnitogorsk, à Riazanov, qui était un autre vieux bolchevique, mais accusé dès ce moment-là de tendance menchevique. Donc les constructivistes se seront alliés, que ce soit Miloutine ou Horitovitch, avec des ennemis du peuple, et ils seront donc ou marginalisés, pas complètement dans le cas de Viasnil ou Ginsburg, ou marginalisés ou éliminés. Merci.